Bonjour à tout le monde, bienvenue. Alors aujourd'hui, si vous voulez, après avoir finalement plutôt mis le focus sur le zoom sur le solide, avec la molécule qui venait comme élément de perturbation, d'optimisation, d'amélioration, enfin, etc. Là, ça va être un angle inverse, dans lequel c'est la molécule qui est au centre et c'est le solide qui accompagne, et en particulier pour rendre la molécule solide. Donc, évidemment, le support lui-même, dans certains cas, a énormément d'impact sur l'activité de la molécule. Mais disons que dans un premier temps, le solide est là pour ce qu'on appelle l'hétérogénéisation du catalyseur. Alors, on va faire ça pendant cette séance et la prochaine, et on va avoir peut-être parmi les deux plus grands spécialistes français de ces questions dans ces derniers temps, c'est-à-dire des chimistes qui ont cette démarche de, d'une certaine façon, de croire dans le moléculaire et d'essayer d'exploiter les catalyseurs moléculaires à travers des hétérogénéisations qui, comme on le verra, peuvent stabiliser, activer, etc. C'est pas simple, mais il y a un certain nombre de gens qui travaillent là-dedans. Donc aujourd'hui, c'est Marc Robert qui est professeur à Sorbonne Paris Université, qui est un éminent électrochimiste parisien, français, et qui va parler plus spécifiquement de catalyseurs pour l'activation, la réduction du CO2. Puis la semaine prochaine, c'est Vincent Artero, dont je parlerai un petit peu aujourd'hui pour des travaux que nous avons faits ensemble à l'époque, et qui est directeur de recherche au CEA et qui a aussi une démarche très moléculaire et en même temps à travers des valorisations de ces molécules sur des solides. Alors, désolé, il y a une incohérence, c'est-à-dire que, mais c'était des problèmes d'agenda des uns et des autres. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de CO2 du tout. J'avais prévu d'en parler la semaine prochaine. Or, il s'avère que le spécialiste du CO2, c'est aujourd'hui, et celui de l'hydrogène, c'est la semaine prochaine. Donc, il y a une petite inversion comme ça, mais enfin, ce n'est pas trop grave. Alors, je vais quand même redonner quelques éléments que j'avais donnés l'année dernière, puisque, comme vous avez vu, cette série de cours cette année est la continuation de choses que j'avais engagées l'an dernier et qui se termineront cette année. L'année prochaine, on parlera de complètement autre chose. Mais disons à nouveau, il faut redonner le contexte et la grande question du moléculaire versus l'homogène versus l'hétérogène. Donc à nouveau, je me pose ces questions uniquement dans le contexte de ces technologies-là. Il y a 36 000 autres réactions chimiques qui utilisent des catalyseurs homogènes, des catalyseurs homogènes hétérogénéisés, des catalyseurs hétérogènes. Là, je parle d'une question spécifique, c'est l'utilisation de catalyseurs dans des dispositifs électrochimiques, c'est-à-dire en gros cela, c'est-à-dire des électrolyseurs, des piles, des cellules photoélectrochimiques, dans lesquelles... comme vous le savez maintenant, parce que je l'ai répété à plusieurs reprises, vous avez l'élément clé qui est l'électrode, l'anode et la cathode, où se passent des réactions chimiques qui ont besoin de catalyseurs. Et donc, pour faire des réactions de type oxydation de l'hydrogène ou réduction de l'oxygène, oxydation de l'eau et réduction des protons et du CO2, assisté par la lumière ou pas, et donc la question se pose de savoir où est-ce qu'on met les catalyseurs. Et évidemment, on ne les met pas au même endroit quand on travaille sur de la catalyse homogène et de la catalyse hétérogène. Donc, si vous voulez, lorsque vous avez un catalyseur homogène, eh bien, ce catalyseur homogène, par définition, il est soluble dans les milieux dans lesquels vous travaillez, Et donc, ils vont être là-dedans. Ils ne sont pas fixés à l'électrode, ils flottent, ils sont solubles dans le milieu, dans le solvant. Aujourd'hui, je dois dire qu'il est assez clair que dans le contexte à nouveau de ces technologies, de ces dispositifs, alors je m'engage en allant assez loin, il n'y a pas d'avenir pour des catalyseurs moléculaires si on ne les fixe pas. Donc c'est là que vient la question. Alors je vais assez loin, je vais assez loin, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, même pour moi et pour les activités du laboratoire, puisque nous faisons de la catalyse moléculaire, mais j'ai déjà expliqué pourquoi c'était aussi intéressant de faire de la catalyse moléculaire. Mais en tout cas, dans un but d'application, je crois qu'il y a vraiment une question là. Et donc, c'est ça qui engage, si vous voulez, les espèces moléculaires, que ce soit des catalyseurs, je n'ai pas parlé de photosensibilisateurs, mais là aussi, dans des cellules photoélectrochimiques, il faut des molécules qui absorbent la lumière, qui réalisent la séparation de charge nécessaire à l'oxydation de l'eau et à la réduction du CO2 ou des protons ou d'autres choses. Donc tout ça peut être moléculaire, mais si on veut vraiment aller plus loin et la mise au point de dispositifs à travers des cellules électrochimiques ou photoélectrochimiques pratiques, il va falloir les fixer. Par exemple, Vincent Artero, la semaine prochaine, va, je crois, aller assez loin dans la discussion de ce type de dispositif ici, donc des cellules photoélectrochimiques de type moléculaire, mais où tout est fixé sur les surfaces, et en particulier pour faire ce qu'on appelle du water splitting, de la décomposition de l'eau en oxygène et en hydrogène, ainsi stockant l'énergie solaire qui frappe ces cellules en carburant, et ici c'est de l'hydrogène. Donc voilà la question. Et quand je parle de catalyseurs moléculaires dans ce domaine-là, à nouveau, ce sont des diags que j'ai montrés lors de mon premier cours, mais voilà de quelles molécules on parle. Ce ne sont pas des molécules d'une très grande complexité, ce sont des molécules relativement simples. Évidemment, c'est une nécessité de faire des molécules, disons, à faible valeur ajoutée, parce qu'il y a évidemment une question de coût et d'économie de ces dispositifs de demain. Donc, vous voyez, voilà, donc pour l'hydrogène, que ce soit la réduction de l'eau en hydrogène ou l'oxydation de l'hydrogène en eau, cette deuxième réaction d'ailleurs étant très peu réalisée à partir de complexes moléculaires, peut-être exclusivement avec ce type de catalyseur, de complexe de nickel, mais tout le reste sont des catalyseurs qui sont connus pour faire de la réduction des protons avec des performances relativement intéressantes, donc qui méritent d'être greffé. Du côté de l'oxydation de l'eau, là aussi, on parle de systèmes simples. Comme vous voyez ici, par exemple, vous avez beaucoup de cobalt, et puis vous avez aussi du ruthénium ou de l'iridium. Et là, bon, je l'ai dit 1000 fois, mais je le répète, évidemment, il y a avantage à se focaliser sur les complexes avec des métaux non nobles, pour des raisons économiques, hein, bien sûr, et de disponibilité des éléments. Même chose du côté des complexes de réduction de l'oxygène, où vous avez aussi des complexes à base de cuivre, en particulier de fer, de cobalt. Voyez. Donc c'est ce type de molécules, et puis pour terminer, mais ça, je n'en parlerai plus, j'y reviendrai la semaine prochaine. Voilà, toute une série de molécules qui sont des catalyseurs très connus pour la communauté des chimistes des chimistes moléculaires du CO2 et qui ont tous pratiquement été étudiés dans le contexte d'une hétérogénéisation sur une électrode. Donc, de quoi il s'agit quand on parle d'hétérogénéisation, eh bien, il s'agit de faire en sorte, et je vais vous montrer, c'est l'objet un peu de ce cours, de vous montrer un peu les technologies qui existent pour fixer ces catalyseurs moléculaires. Il faut évidemment mettre en œuvre des liens relativement forts entre la surface et le catalyseur, parce que le catalyseur lui-même comme je l'ai dit, est soluble dans le milieu, dans le solvant, donc il a envie de rester dans le solvant et pas d'aller se coller sur une surface. Donc il faut créer des interactions assez fortes, parce qu'on veut aussi que le catalyseur dure longtemps, soit actif longtemps. Hein, les dispositifs, ils sont destinés à fonctionner des semaines, des mois, des années. Donc il faut des liens relativement importants. Le support, c'est évidemment des matériaux donc solides qui ont les propriétés attendues pour une électrode. Hein, ils doivent être conducteurs ou semi-conducteurs, ils doivent être transparents si on doit leur envoyer des photons, de la lumière, hein, solaire, etc. Donc il y a toutes sortes de matériaux. Alors dans les matériaux carbonés, alors ceux-là ils ne sont pas transparents, hein, donc ce n'est pas eux qu'il faut utiliser pour les cellules photoélectrochimiques. Voilà, on va parler de nanotubes de carbone, de graphène, vous avez des semi-conducteurs de type sulfure de cadmium, vous avez évidemment tout un tas d'oxydes métalliques, oxyde de titane, de nickel, ITO, FTO, et puis ça peut être des métaux aussi, or, nickel, cuivre, hein, comme support. Donc il y a un grand choix, évidemment, ce choix dépend des performances et de l'association possible. Je ne parlerai pas de ça parce que finalement, l'an dernier, j'en ai parlé un petit peu. Vous pouvez aussi utiliser des matériaux poreux, de type polymère de coordination, silicate mésoporeux, zéolite, etc. Donc tout un tas de matériaux qui vont accepter les molécules, les catalyseurs moléculaires, sans les fixer peut-être de façon forte, de façon covalente, mais leur insertion dans des pores peut les maintenir assez longtemps. Voilà. Mais je ne parlerai pas de ça. Oui, en gros, à nouveau, ça j'avais montré ça lors de la... Enfin, je crois, je ne sais pas quand, l'année dernière peut-être. L'idée ici, c'est que, évidemment, ceux qui ont cette démarche d'hétérogénéisation, c'est pour défendre la molécule, c'est pour défendre le catalyseur moléculaire, et on verra sans doute tout à l'heure un défenseur de la catalyse moléculaire qui veut greffer ces catalyseurs sur un solide. Évidemment, on annonce quand on fait ça qu'on va gagner. On va gagner avec tout un tas d'avantages et qu'on va stabiliser le catalyseur, on va faciliter les transferts d'électrons entre l'électrode et le catalyseur. Vous voyez, au lieu les points bleus ici, c'est schématique, hein, ce sont les catalyseurs. Là, ils sont dans le solvant. Et il n'y a qu'une toute petite partie qui est à proximité de l'électrode. Et là, vous avez une très grande partie des catalyseurs qui ne sont pas actifs, ne sont pas utilisés. Donc, ce n'est pas très rentable d'une certaine façon. Mais voilà. Sur un solide, quand vous avez un catalyseur solide sur une électrode, vous voyez que, bon, en gros, tout le catalyseur est utilisé, il est en contact avec l'électrode. Donc, l'idée avec un greffage, c'est de ramener tous ces points bleus à la surface de l'électrode. Donc, on va faciliter les transferts d'électrons. On va peut-être limiter des processus de désactivation, en particulier des processus bimoléculaires qui sont connus pour ça. On va avoir évidemment une concentration locale plus grande de catalyseurs dans la couche de réaction, à l'interface entre l'électrode et le catalyseur. Finalement, on va pouvoir changer l'électrolyte. Beaucoup de ces catalyseurs sont solubles en milieu organique. Or, il y a un enjeu à les faire fonctionner dans l'eau, qui est le solvant de prédilection pour ces dispositifs dont j'ai parlé, technologiques, la pile, cellule, électrochimique, enfin, etc. L'intérêt, c'est que, vous voyez, dans cette situation-là, si vous les mettez dans l'eau, ils précipitent, ils se désactivent, ils se transforment, alors que dans une situation comme ça, on peut mettre de l'eau, ils sont accrochés sur la surface et ils ne vont pas passer dans l'eau et ils ne vont pas précipiter, ils ne vont pas se désactiver. Enfin, c'est la théorie. Voilà, et donc, et évidemment, c'est une des clés de l'hétérogénéisation des catalyseurs homogènes en général, c'est qu'on peut les récupérer. Dans cette situation-là, on sort l'électrode, il y a toujours le catalyseur dessus, on peut le remettre, on peut le laver et puis le remettre dans une autre pile, un autre électrolyseur. A l'inverse, ici, vous voyez, c'est plus difficile de ressortir le catalyseur quand il est dilué dans le solvant. Donc voilà un petit peu les choses. Donc ça, c'est ce qu'on annonce hein, quand on fait de l'hétérogénéisation, c'est ce qu'on espère. Et puis, vous avez aussi des problèmes qui sont liés, évidemment, sinon ça serait très simple et ça serait déjà fait et on aurait toutes nos cellules électrochimiques avec des catalyseurs comme ça. Il y a des problèmes en particulier, vous voyez que pour créer ce lien avec l'électrode, ici, vous êtes, et notamment s'il est covalent, vous êtes obligé de transformer votre catalyseur primaire parce qu'il faut que vous introduisiez des fonctionnalités ici sur le ligand qui permettent, ou sur le métal, enfin, c'est sur le ligand surtout, pour accrocher de façon covalente. Voilà, donc à partir du moment où vous avez des catalyseurs secondaires qui viennent d'une fonctionnalisation du catalyseur primaire, vous introduisez des modifications stériques, électroniques, etc., qui peuvent modifier les performances de votre catalyseur. Et puis ça veut dire plus de synthèse, donc économiquement c'est plus cher. Voilà. Pour les chimistes moléculaires, il y a quelque chose qui est parfois difficile, c'est que autant caractériser un complexe en solution, on sait faire, autant c'est plus difficile de bien savoir ce qu'il y a sur la surface. Est-ce que le catalyseur est le même ? Est-ce qu'il n'a pas été un peu transformé ? Et malgré le fait, et je l'ai dit à plusieurs reprises, malgré le fait que les technologies, enfin les techniques d'analyse des solides sont devenues hyper performantes, vraiment d'une grande puissance, y compris à l'échelle atomique. Malgré tout, là, il y a un déficit d'informations assez souvent. Un gros problème, c'est évidemment la quantité de catalyseurs que vous pouvez fixer à la surface du solide, de l'électrode. Et ça c'est souvent une limitation. C'est-à-dire que, évidemment, vous avez... Vous comprenez bien que plus vous avez de catalyseurs à la surface et plus l'électrode va être active. Donc il y a un problème de densité de catalyseurs par unité de surface. Et souvent, alors peut-être qu'on verra des cas où on s'échappe de cette contrainte, mais souvent on est limité, c'est-à-dire que la densité est assez faible. Vous voyez, on parle dans la littérature de 10-12 à 10-8 mol par centimètre carré. Et puis les études mécanistiques eh bien, sont un peu plus difficiles dans cette configuration-là que dans celle-là. Et pourtant, étudier des mécanismes, c'est absolument central pour comprendre comment le catalyseur fonctionne, information qui permettra ensuite d'améliorer le catalyseur. Voilà. Alors, là, je vais, si vous voulez, sans rentrer dans le détail des résultats, mais vous montrer quelles sont les techniques de fixation hein, de ces catalyseurs. Alors, en particulier pour les électrodes à base d'oxyde métallique, hein, assez classiques comme ITO, FTO, enfin, etc., eh bien, vous avez une fonctionnalisation par ce type de molécules. Donc, des carboxylates ou des phosphonates ou des acétylacétonates. Voilà, toutes ces fonctions-là ont une bonne affinité pour la surface d'un oxyde. Alors, vous voyez, ici, par exemple, c'est un catalyseur d'oxydation de l'eau, vous voyez, qui a pu être accroché simplement en introduisant sur ce ligand-là, c'est un ligand bipyridine, des phosphonates qui se fixent donc sur l'électrode. Donc, vous voyez, c'est un catalyseur qui n'est pas très complexe, c'est un catalyseur donc, qui a été développé par plusieurs laboratoires. Ici, c'est un travail de Thomas Meyer, qui est un spécialiste de l'oxydation de l'eau, utilisant des catalyseurs à base de ruthénium. Vous voyez, vous pouvez co-greffer différentes choses. Ici, vous avez greffé... des éléments ici qui stabilisent le catalyseur. Vous voyez, quand il fonctionne ici, il est stable. Si vous n'avez pas cette modification de surface, vous avez une activité qui décroît. Donc voilà le type de choses, et je vais vous en montrer d'autres. Vous pouvez y compris fixer des choses plus complexes. Vous voyez ici un catalyseur, un photocatalyseur, où on associe un photosensibilisateur avec la partie catalytique. Alors vous voyez, ça a l'air de rien, mais tout ça, ce sont des ligands organiques qui deviennent un petit peu complexes, donc ça implique de la synthèse, ça implique du travail de synthèse, et là, ici, vous reconnaissez donc les phosphonates qui permettent de fixer ça sur une couche d'oxyde de titane qui facilite la séparation de charge et donc la catalyse. Vous voyez, tout ça, ce sont des résultats très récents, hein, PNAS 2013. Il y a cette excellente revue de Meyer qui parle de ces choses-là. Vous avez aussi des carboxylates. Vous voyez ici, on peut situer à peu près à ces années-là, vous voyez donc il n'y a pas très longtemps, d'une certaine façon, la première photocathode moléculaire. Sans métaux nobles, hein, vous voyez par rapport à ici, il y a du ruthénium deux fois. Ici, il y a un colorant organique qui sert à capter l'énergie solaire, à séparer les électrons qui vont ici sur le catalyseur, qui peut réduire les protons en hydrogène, tandis que les trous sont comblés ici par des électrons qui viennent de cette électrode d'oxyde de nickel. Donc c'est un schéma de voilà, c'est un schéma dit en Z d'une certaine façon, enfin de type photosynthèse. Et tout est combiné ici, capture de l'énergie solaire et catalyseur. Et vous voyez que quelque chose comme ça implique une fixation du catalyseur sur la partie moléculaire ici du photosensibilisateur, et lui-même, le photosensibilisateur, vous voyez, est fonctionnalisé avec des carboxylates pour le fixer sur un oxyde. Donc tout ça, c'est pas très compliqué, mais enfin sur le plan conceptuel, mais c'est, disons, ça demande de la synthèse. Et là, je vous ai parlé d'une photocathode, et aujourd'hui, on en est, alors pas avec des grandes performances, mais on en est, et ça, je crois que Vincent Artero en parlera pour l'hydrogène, on en est à des dispositifs entiers qui sont moléculaires, c'est-à-dire aussi bien avec de l'anode et des photoanodes et des photocathodes. Hein. Ici, vous voyez, c'est des travaux des années 2014-2015. Donc, je ne sais pas si on voit bien, mais en gros, vous avez ici une photocathode. Alors, là, c'est plus simple, c'est-à-dire contrairement à ici où le catalyseur et le photosensibilisateur sont ensemble, ici, je vous montre qu'on peut coller plusieurs choses à la surface, greffer plusieurs molécules à la surface d'une cathode, ici à base aussi d'oxyde de nickel. Vous voyez, il y a un photosensibilisateur à base de ruthénium. Ce n'est pas un catalyseur, ça, ce sont des phosphonates. Vous voyez, ici, ce sont des phosphonates qui ont été utilisés. Et ici, vous avez un catalyseur à base de cobalt, et ce sont des carboxylates. Donc, vous pouvez aussi mélanger les fonctions. Et de l'autre côté, vous trouvez le même photosensibilisateur ici que celui-là, et accroché par des phosphonates, et ici, avec des carboxylates, vous avez un catalyseur à base de ruthénium, voilà, qui n'est pas le même, hein, vous voyez la différence peut-être, mais en tout cas, voilà. Donc vous pouvez accrocher plein de choses par des fonctionnalités différentes, et à la fin, vous avez un ensemble qui est purement moléculaire, dans le sang, enfin purement, il faut bien des électrodes solides ici, mais où les parties les plus importantes, c'est-à-dire capture du soleil, les photons solaires et catalyseurs sont dans des molécules et pas dans des solides. Et ça, vous voyez, c'est des choses qui peuvent paraître assez triviales en se disant ben, on aurait pu faire ça depuis longtemps, mais voilà, c'est très récent parce que c'est pas si facile que ça. Bon, et ici, vous avez quelques informations sur les performances. Le problème ici, ce sont des dispositifs qui sont encore avec des courants relativement faibles et des stabilités qui sont faibles aussi. Donc il faut aller plus loin. Ça, c'est peut-être pas nécessaire. Bon, donc je vais parler de fonctions carboxylate-phosphonate. Deuxième grande approche, c'est de fixer vos catalyseurs sur des polymères. Donc là, on tombe sur la chimie des polymères. Ce n'est pas de la chimie très compliquée, c'est avec des polymères relativement classiques. Et ici, par exemple, c'est toujours Meyer, avec toujours ces catalyseurs à base de ruthénium pour faire de l'oxydation de l'eau. Donc là, on parle d'anode, hein, ou de photoanode, dans des électrolyseurs ou des photoélectrolyseurs. Vous voyez ici comment il procède. Il introduit des fonctions, des alcènes, des vinyles, sur le fameux ligand bipyridine, qui est celui que, en tout cas, Meyer fonctionnalise le plus souvent. Et ça, c'est la partie photosensibilisatrice. Alors, vous voyez, c'est une chimie là, un peu plus compliquée, parce qu'il faut des fonctions pour polymériser. Et puis, il a aussi, ici, des phosphonates qui contribue à la fixation sur la surface. Donc vous faites la polymérisation de ces fonctions. En même temps, ici, vous avez le catalyseur avec les mêmes fonctions vinyles, vous polymérisez tout ça ensemble, et vous avez, vous voyez ici, un polymère qui s'accroche sur la surface, polymère qui contient des fonctions photosensibilisatrices et des fonctions catalytiques. C'est assez intéressant de procéder ainsi. Voilà, ça c'est un autre travail, sans doute un des pionniers, hein, dans cette affaire-là, c'est Anthony Liobet en Espagne. Ici, vous voyez, ce sont des pyroles, donc vous pouvez faire des polypyroles. Ça polymérise très bien sous l'effet de courant électrique. Donc voilà, donc il y a une approche à partir des polymères. Bon, ça, c'est la même chose. C'est un peu différent dans le sens où ici, vous avez un lien qui n'est pas vraiment covalent. C'est un lien de coordination entre le cobalt et ses pyridines. Donc, vous voyez, vous avez ici une molécule qui s'appelle vinylpyridine. Vous pouvez la polymériser. Vous avez un polyéthylène avec des fonctions pyridines qui peuvent accrocher des métaux. Et ici, c'est le cas d'un complexe de cobalt. Et ensuite, ce polymère est déposé sur un semi-conducteur, et donc vous faites une photocathode par ce biais-là qui peut être éclairée et activée pour faire de la catalyse de réduction des protons en hydrogène. Et vous voyez ici les différences d'activité selon que le complexe est fixé, c'est en bleu, ou pas fixé sur le semi-conducteur. Donc de très grosses différences de surtension et donc de courant pour un potentiel donné. Donc il y a un gros avantage à faire ça. Là, c'est juste pour mentionner ce polymère qui est pas mal utilisé, mais j'en reparlerai la semaine prochaine. C'est un polymère qui vient de l'observation que ces complexes carbonyles bipyridines de ruthénium sont plutôt de très bons catalyseurs de la réduction du CO2. Et ici, c'est un travail. Alors, ces catalyseurs-là sont depuis quelques années très développés par Toyota pour faire des cellules. Et ici, vous voyez, vous avez à nouveau un pyrrole et vous faites des polypyrroles qui contiennent ces fonctions ruthénium. Alors là encore, c'est du ruthénium, donc vous pourriez dire, ok, c'est pas l'idéal, mais ce sont des catalyseurs qui sont pas mal développés sous la forme de polymères. Troisième approche, à travers une fixation covalente, c'est l'utilisation, donc fixation covalente sur soit du carbone, soit d'un métal, soit un semi-conducteur, etc., c'est l'utilisation de sel de diazonium. Donc il faut connaître cette chimie parce qu'elle est très développée. Vous voyez, c'est composé aryl diazonium avec une fonction aromatique ici. Lorsque vous leur appliquez un potentiel pas très très bas, voyez, vous réduisez cette fonction et vous créez une entité radicalaire qui est qui est très réactive et qui va s'accrocher, qui va faire une liaison carbone-carbone, par exemple, avec l'électrode de carbone qui se trouve là. Et donc, vous allez créer un lien covalent assez fort. En tout cas, c'est le principe. Vous voyez que si vous le faites avec des fonctions, ici, c'est un acide, ou ici, c'est un groupement nitro qui devient amino dans les conditions de l'électrochimie, vous avez non seulement des composés aromatiques ici, mais vous avez en plus des fonctions qui peuvent servir à accrocher de façon covalente des catalyseurs. Voilà, ici c'est quelques exemples. Vous voyez, une fois que vous avez une amine, si vous avez un ester activé, eh bien vous pouvez fixer et vous voyez tout d'un coup, vous avez ce complexe là, binucléaire, de fer, qui est accroché sur une surface de carbone. Ça s'est donc passé en deux temps. Un diazonium qui s'accroche de façon covalente sur la surface, et ensuite, on profite de la fonctionnalité qui est là pour accrocher le complexe. Et on a une électrode moléculaire avec un catalyseur. Alors, le problème, c'est que c'est assez difficile à gérer, cette affaire-là. Ici, vous voyez, je vous montre une couche. En réalité, ce n'est pas une couche, c'est quelque chose d'assez complexe, parce que ces radicaux-là, qui sont là, sont eux-mêmes très réactifs, non seulement vis-à-vis de la surface, mais vis-à-vis des noyaux aromatiques qui s'accrochent. Et donc, en fait, vous avez quelque chose d'assez complexe à la surface, où vous avez plusieurs groupements qui sont accrochés un peu partout et qui font plusieurs couches. Et il faut gérer ça, parce que plus les couches sont élevées, et plus il va y avoir de résistance, de perte de conductivité. Voilà. Alors, donc, il y a des stratégies où vous introduisez des groupements encombrants pour ne fixer qu'une couche. Enfin, il y a tout un tas de stratégies pour gérer cette affaire-là. Mais c'est une affaire assez importante. Oui, alors là encore, ben voilà quelques exemples. Hein. Je reviens toujours, vous voyez, c'est des choses aussi récentes. Le complexe de ruthénium, vous faites des sels de diazonium. Donc ça, vous reconnaissez ce type de complexe de ruthénium pour l'oxydation de l'eau, pour la catalyse d'oxydation de l'eau. Ensuite, vous les fixez sur des électrodes de carbone. Alors, malheureusement, dans ce cas-là, le catalyseur, donc c'est pour faire de l'oxydation de l'eau, hein, en oxygène, ce catalyseur, il est plutôt instable. Vous voyez, son efficacité, TOF, c'est turnover frequency, sa vitesse de réaction, c'est 0,27 cycles par seconde, c'est pas terrible. Donc la question, c'est que, vous voyez, alors qu'on se dit qu'en le fixant sur une surface, on va éviter les réactions bimoléculaires et donc la désactivation. Malgré tout, il peut se passer des réactions bimoléculaires sur des surfaces. Le catalyseur homogène lui-même, en solution, hein, c'est-à-dire non fixé, il est beaucoup plus actif, vous voyez, 1000 par seconde, et il est très stable. Donc ici, c'est un cas où, vous voyez, on a beaucoup perdu dans l'hétérogénéisation. Quand on est dans cette situation-là, évidemment, c'est pas très bon. Voilà. Une des choses, évidemment, importantes, j'aurai l'occasion de le redire, mais autant le dire à ce propos, puisque cette question était soulevée ici, c'est que lorsque vous avez une activité sur un complexe hétérogénéisé, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment lui qui fait le boulot, ou bien c'est une entité qui en dérive. Et ici, tout démontrait que dans les conditions dans lesquelles le système fonctionnait, vous aviez des particules d'oxyde de ruthénium qui se formaient à cause des potentiels élevés qu'on appliquait. Et ces oxydes de ruthénium sont très connus pour la catalyse d'oxydation de l'eau. Vous voyez, c'est stable, c'est rapide, etc. Donc, ici, voilà, c'est un exemple que je montre, parce que c'est un système qui a été pas mal étudié, mais qui n'est pas une vraie réussite. Quatrième stratégie, c'est ce qu'on appelle la chimie clique. C'est une grande, enfin, les chimistes connaissent ça maintenant parfaitement bien. C'est une stratégie puissante, hein, pour accrocher deux choses ensemble. En gros, ces deux choses-là ensemble, elles doivent avoir une ces azotures, vous voyez, N3, et l'autre, une triple liaison. Et ça, en présence de catalyseurs, en général à base de cuivre, eh bien, vous formez ce triazole ici, et donc vous avez fixé cette partie-là à l'autre à travers ce lien. Et donc, vous voyez, cette structure-là, vous allez la retrouver dans tout un tas de molécules aujourd'hui de la chimie. C'est une façon très simple d'accrocher deux choses ensemble. Bon, voilà un exemple. Vous voyez, dans les années, début des années 2010, pour faire de la réduction de l'oxygène, un certain nombre de gens ont été intéressés par le cuivre, puisque vous avez des enzymes qui sont des lacases, qu'on appelle des lacases, qui sont des systèmes avec plusieurs atomes de cuivre dans le site actif, trois d'un côté, puis un peu plus loin qui participe au transfert d'électrons, mais vous avez un ensemble d'atomes de cuivre très entourés, vous voyez, par un environnement azoté, c'est-à-dire des histidines dans la protéine. Et donc, il y a eu tout un tas de travaux sur des complexes de cuivre avec un environnement azoté, comme ici, vous voyez, des complexes avec des phénanthrolines. Et là aussi, vous reconnaissez ce motif, hein, c'est donc il y a eu de la chimie clique qui a été utilisée pour fixer ce catalyseur à du carbone. Et ce sont des catalyseurs pour la réduction de l'oxygène en eau. Alors, c'est une réaction à 4 électrons, c'est-à-dire qu'ici, dans ce travail-là, on montre qu'on ne fait pas juste 2 électrons. On observe que c'est une réaction d'ordre 2 par rapport au cuivre, et tout ça indique, et vous voyez que pour faire de l'eau à partir de l'oxygène, il faut à un moment donné que vous cassiez la liaison oxygène-oxygène. Donc ça veut dire qu'en gros, les deux atomes d'oxygène doivent être activés, et ça, c'est possible que si les deux atomes de cuivre travaillent ensemble. Or, à nouveau, on était parti de l'idée que de fixer un catalyseur moléculaire conduisait à une séparation des entités moléculaires, d'où l'avantage sur la désactivation bimoléculaire, mais en même temps, on voit, et j'y reviendrai à plusieurs reprises, on voit que certaines réactions ont besoin, au contraire, que les atomes métalliques soient proches les uns des autres. Et donc, en réalité, cette idée qu'il n'y a pas de réaction bimoléculaire parce que les catalyseurs moléculaires seraient fixés à la surface, bien ça, c'est une idée qui est plutôt fausse. Il peut y avoir des réactions en surface entre deux molécules adjacentes. Voilà. Cinquième stratégie, je pense qu'on va avoir des exemples avec la présentation de Marc Robert, ce sont les nanotubes de carbone. Alors, c'est une chimie très riche, vous connaissez ces matériaux, on en parle souvent, ils sont déjà utilisés dans l'industrie, et ici, ils sont utilisés aussi assez fréquemment pour la fixation de complexes moléculaires. Grande conductivité électrique, grande surface spécifique. Donc ça, c'est important parce que vous vous souvenez la problématique qui consistait à dire plus j'ai de catalyseurs en surface et mieux ça sera. Donc ce sont des matériaux qui sont nanostructurés et qui permettent d'avoir une densité de catalyseurs à la surface, donc une quantité de catalyseurs par unité de surface la plus grande possible. C'est ce qui est un élément attractif dans ce type de matériaux. Bonne propriété mécanique. Et puis, ce sont des matériaux qui, en réalité, ont tout un tas de défauts qui existent naturellement, je dirais, ou qu'on peut créer par de la chimie. Et ces défauts sont des sites potentiels d'accrochage de molécules, de fonctionnalisation. Donc, vous avez, vous voyez, en bout de, par exemple, de nanotubes, des fonctions acides, des carboxylates qui permettent d'accrocher des choses. Vous avez des cycles, ici vous voyez des hexagones, mais vous avez des cycles plus tendus ou moins tendus qui sont plus réactifs. Voilà. Et donc, on peut exploiter toutes ces possibilités-là pour fixer des molécules. Alors, Par exemple, le fait qu'on ait ici tout un tas de noyaux aromatiques permet de fixer des molécules, par exemple, en les ayant fonctionnalisées avec des noyaux pyrènes, parce qu'on fait de l'interaction hydrophobe, des interactions pi-pi entre le matériau et la fonction ici. Alors, il n'y a pas de lien covalent, mais ce sont des liens qui sont vraiment très très forts. Vous pouvez ici, profiter des carboxylates pour ajouter des fonctions. Vous pouvez faire une liaison amide en faisant réagir une molécule qui contient une amine, et vous avez donc fixé sur le nanotube tous les groupements R. Là. Vous pouvez aussi faire de la chimie avec des espèces réactives, des nitrènes, des radicaux, des carbènes, et accrocher sur le carbone. Évidemment, par exemple, les sels de diazonium, à nouveau, vous voyez, réduction à un électron, vous créez un radical aryl qui est très réactif sur les nanotubes de carbone. Vous pouvez faire aussi de la chimie clique. Voilà, ici, il y a des porphyrines qui ont été accrochées. Vous reconnaissez à nouveau le motif ici, hein, qui dérive de la chimie clique. Donc vous pouvez utiliser toutes les méthodes possibles. Si vous voulez, celle-là, j'en ai déjà parlé, c'est juste une application dans le cadre des nanotubes. Celle-là est assez spécifique des nanotubes, c'est-à-dire cette interaction pi-pi entre un pyrène et le nanotube. Voilà. Alors, pour terminer, je voudrais parler donc de ce travail-là. Il y a longtemps, j'ai eu l'occasion d'en parler dans cette enceinte, mais les choses ont évolué, et je voudrais raconter l'histoire de ce catalyseur moléculaire, qui est, à mon avis, peut-être le pour la réduction des protons en hydrogène, le plus bel exemple de démarche bio-inspirée, et ensuite qui a conduit à un matériau solide, à nouveau par greffage du catalyseur sur la surface, qui, à mon avis, constitue un des systèmes les plus performants, qui se rapproche le plus possible des meilleurs catalyseurs métalliques comme le platine. Et je voudrais finir en vous racontant cette histoire très, très rapidement. Et cette histoire, en gros, les premiers résultats, vous voyez, c'est 10 ans. Et donc, c'est un travail qui a été fait en collaboration, un travail commun avec Vincent Artero, c'est lui, hein, si vous le voyez la semaine prochaine, il a à peu près la même tête. Et avec un postdoc à l'époque, Alain Le Goff, qui est maintenant chercheur au CNRS à Grenoble. Et ce matériau est encore travaillé par son équipe. Et donc, je vais vous raconter ça. Donc, à nouveau, quelle a été la démarche ? Lorsque vous vous intéressez, je l'ai déjà dit, donc je le répète, à la transformation des protons en hydrogène ou l'oxydation de l'hydrogène en eau, si vous vous posez la question « est-ce que la nature fait ça ?», la réponse est oui. Et si vous vous posez la question « qui fait ça ?», la réponse est maintenant bien connue. C'est une classe d'enzymes qui s'appelle les hydrogénases, qui sont des systèmes assez complexes, mais qui contiennent dans leur site actif soit du nickel et du fer, voyez, soit deux atomes de fer. Ce sont des catalyseurs puissants, vraiment sans doute parmi les meilleurs qui existent sur la planète. Simplement, ils sont au sein d'une protéine, d'une enzyme, et donc c'est pas la même chose que les petits complexes dont je vous ai parlé, c'est pas la même chose que les catalyseurs solides dont j'ai pu vous parler, etc. Donc c'est une protéine pas facile à obtenir, assez instable, avec tout un tas de défauts, même si, et je l'ai dit plusieurs fois, Il y a tout un tas de travaux qui consistent à croire en l'utilisation des enzymes elles-mêmes et de les mettre sur des électrodes et faire ce qu'on appelle des bioélectrodes pour faire cette chimie-là. Il y a énormément de travaux encore là-dessus. Bon. Et donc, si vous voulez, à partir de ces informations, en particulier structurales, Dan Du Bois, vous voyez, au début des années 2000, s'est lancé dans l'étude de complexes très simples, à base de nickel, avec des ligands diphosphine. Pourquoi nickel? Vous avez bien compris, c'est parce que l'enzyme, parce que la nature a choisi le nickel comme atome pour faire cette chimie-là, donc autant regarder des atomes de nickel. Et la deuxième chose, c'est en regardant ce site actif d'une deuxième classe d'hydrogénase, hein, à nouveau les deux classes, observez que vous avez un atome d'azote ici qui est absolument essentiel et que Du Bois introduit ici. Et qui est absolument essentiel pour l'activité. Et donc, avec Vincent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié, on a travaillé sur ces complexes de nickel et on les a modifiés suffisamment à travers justement l'utilisation de celles d'aide de diazonium pour fonctionnaliser avec des amines les nanotubes de carbone et pour fixer avec des ligands qui contenaient des liaisons acides, de fixer tout ça à la surface d'un nanotube de carbone. Et vous voyez, c'est à nouveau ce qui est indiqué ici. Vous voyez, un sel de diazonium avec une amine en bout, donc vous avez une fonction sur le nanotube. Vous avez un ester activé ici, donc vous fixez le catalyseur. Et ce catalyseur, en fait, si vous voulez, l'histoire, c'est que c'est un des cas où le catalyseur, une fois fixé, a des propriétés qui sont infiniment meilleures que lorsqu'il était en solution. Je vous ai cité des cas où c'était le contraire, c'est souvent le contraire. Pour le moment, c'est souvent le contraire. Contrairement à Madia, où je disais cool, c'est souvent le contraire. Ici, c'est un cas qui reste encore, d'une certaine façon, 10 ans après, assez mystérieux sur ce qui se passe vraiment sur la surface pour que ce catalyseur devienne aussi bon. Ensuite, il a été mis assez vite. Il s'avère que cette recherche s'est développée au commissariat à l'énergie atomique à Grenoble, et donc assez rapidement, il y avait les outils et les services technologiques pour aller dans des dispositifs de type pile à combustible, et en particulier la technologie, enfin, en anglais on appelle PEMFC, Proton Exchange Membrane Fuel Cell, qui est une technologie qui est intéressante parce que on est dans des conditions de température et de pression qui sont normales, en milieu très acide. Ce qu'on appelle une gas diffusion layer, c'est un tissu de carbone donc recouvert, comme c'est écrit ici, par une membrane de carbone conductrice et qui est, étanche et perméable au gaz. Et donc, vous assemblez tout ça, vous déposez votre catalyseur là, à base de nickel avec les nanotubes de carbone sur cette GDL, vous mettez une membrane de nafion, qui est cette molécule qui permet les échanges de protons et la circulation de l'eau, et vous avez un milieu très acide. Ce sont les conditions des piles à combustible de cette technologie-là. Ça ne marche plus. Voilà. Et là, la grande découverte, c'est que ce catalyseur, vous voyez ici, ici vous avez le platine. Ce pic ici indique la surtension. L'intérêt du platine, c'est qu'il y a une surtension à peu près nulle pour faire la réduction des protons. Et ce matériau, à base de nickel, a également une surtension nulle. C'est-à-dire, même cette surtension, pas loin de zéro, cette surtension, elle est beaucoup plus petite, pardon, que le catalyseur en solution. Donc on gagne 200 à 300 millivolts. Donc ça, c'est assez fascinant. Et l'autre chose, et ça n'existait pas en solution, sur tension nulle, mais à ce moment-là, le catalyseur, alors ça, ici c'est du courant en fonction de la tension, ici en négatif vous avez la réduction des protons en hydrogène, et de l'autre côté vous avez l'oxydation de l'hydrogène en protons, et le catalyseur soluble n'est pas capable de faire l'oxydation de l'hydrogène, alors que fixé sur le nanotube de carbone, il devient capable d'oxyder. Donc il est capable de faire les deux, donc il peut être utilisé aussi bien dans un électrolyseur que dans une pile. Un des problèmes, et en plus il est stable, vous voyez là on atteint, donc en gros on va atteindre des centaines de milliers de cycles catalytiques. Alors vous voyez ici, le courant en oxydation de l'hydrogène est plus faible qu'en production d'hydrogène. Bon. Le problème, c'est que vous voyez que les courants obtenus sont presque 100 fois plus importants avec le platine, même si c'est du platine, donc plus cher, même si c'est ici comparé avec 10 fois plus de platine que de nickel, enfin, etc. Mais bon, alors mettons que ça soit proportionnel, donc on a plus d'un facteur 10. Donc voilà, donc les courants sont moins bons, tout simplement, et ça c'est la question que j'ai déjà soulevée, parce que la densité de site actif, la densité de catalyseur à la surface du solide, du nanotube, de l'électrode, est insuffisante. Donc, une des façons d'augmenter le courant, c'est d'augmenter la quantité de catalyseur à la surface. Et ça, c'est ce qui a été fait par Fang assez rapidement. Vous voyez, c'était déjà les années 2011, donc 2 ans après le premier papier, où simplement, au lieu d'avoir une fixation covalente, comme tout à l'heure, vous vous souvenez, celle de diazonium, ester activé, etc. Ici, c'est la stratégie pyrène. Donc, Fong a introduit une fonction pyrène qu'il a accrochée sur le nanotube. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus simple à faire. Hein. Vous n'avez pas d'électrochimie, vous n'avez pas d'une seconde réaction de fixation, etc. Vous mélangez votre préparation de complexe dans des solutions de nanotubes et ça s'accroche, quoi, en gros. Donc on a pu mettre une charge en catalyseur plus grande et on a pu augmenter les densités de courant. Et vous voyez ici, en densité de courant, voilà, on gagne un facteur 5, disons, ce qui est intéressant. Et par ailleurs, il s'avère que, vous savez, le platine est un catalyseur qui est très sensible au monoxyde de carbone. Il peut être très rapidement désactivé et c'est un des problèmes des piles à combustible. Et regardez ici, en fonctionnement, dans un vrai fonctionnement de pile, notre catalyseur et le platine. Le platine, alors en présence d'une certaine quantité de CO, je ne me souviens plus, enfin, quelques ppm de CO. Et là, le catalyseur est résistant au monoxyde de carbone et le platine. Le catalyseur à platine ne l'est pas. Voilà. Donc tout ça, c'est les deux articles, je veux dire, pionniers, où... C'est un cas où, en partant d'un complexe moléculaire qui a un intérêt, qui est actif, etc., on le fixe sur des nanotubes de carbone et on a un objet différent, on a un objet nouveau. Et ça, évidemment, c'est assez passionnant, en particulier si on arrive à comprendre qu'est-ce qui a fait que cet objet est plus actif. Évidemment, vous voyez, l'environnement dans lequel il se trouve est très différent de l'environnement où il est quand il est juste en solution. Hein. Il est fixé à un nanotube de carbone qui facilite les transferts d'électrons. Il est dans un milieu acide sulfurique. Pris en sandwich entre du nafion et cette fameuse GDL. Donc, voilà. Tout ça peut contribuer. En 2015, donc là je contribuais encore au travail, et ensuite Vincent a continué tout seul. En 2015, notamment avec un autre groupe de Saclay du CEA, qui travaillait sur la partie oxydation, notamment avec des oxydes de cobalt. J'ai déjà eu plein de fois l'occasion de vous dire que les oxydes de cobalt sont des catalyseurs pour l'oxydation de l'eau qui sont très utilisés. Des oxydes de cobalt, d'un côté, vous voyez ici, la cathode et notre catalyseur à base de nickel et de nanotubes à l'anode, on a une pile à combustible. Et en 2015, on rapporte finalement ce qui est la première pile à combustible sans aucun métaux noble et avec une anode, qui est moléculaire, qu'on utilise là pour le coup pour l'oxydation de l'hydrogène. Voilà. Alors, évidemment, les performances ne sont pas encore très bonnes et on voit bien que si vous associez du platine à l'anode à la place de notre nickel carbone nanotube et du cobalt, vous avez une très bonne puissance en microwatts par centimètre carré. Évidemment, quand vous remplacez le platine par le nickel, vous avez quelque chose de 100 fois moins intéressant, puissance 100 fois moindre. Et on voit bien que le problème, c'est bien ici avec le complexe de nickel. Donc, c'est une première approche, mais c'est 2015, mais ce n'est pas encore extraordinaire. Puis après, il y a eu tout un tas de développements. Et vous voyez ici, je vous parle d'un article de 2017, donc c'est très récent, où vous avez, alors à travers l'élaboration à nouveau du même type de matériau, mais de façon un petit peu différente, puisque vous voyez ici, le choix, ça a été de greffer sur le nanotube des carboxylates, d'introduire pour le complexe de nickel des fonctions un peu complexes avec des parties ici chargées positivement qui interagissent de façon électrostatique, hein, moins plus, avec la surface. Même si ce n'est pas covalent, c'est relativement stable. Et vous avez donc une anode pour faire l'oxydation de l'hydrogène. Et ici, dans ce travail-là, ils ont associé cette anode avec une biocathode. C'est une cathode dans laquelle se fait la réduction de l'oxygène et c'est une enzyme qui est utilisée ici. Et vous voyez maintenant que si on regarde, je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez ici, si on prend le catalyseur nanotube de carbone nickel avec cette cathode enzymatique, cette biocathode, on arrive à une puissance de 2 milliwatts par centimètre carré. Et si on la compare avec du platine à la place de la cathode, on a 14 milliwatts par centimètre carré. On commence à se rapprocher, je dirais, des performances. Voilà. Enfin, je termine là-dessus, encore plus d'optimisation. Il y a quelqu'un qui a travaillé ici sur ces sujets-là. Toujours pareil, augmenter la densité de sites catalytiques sur la surface, améliorer le transport du substrat, l'hydrogène et les protons, et améliorer la stabilité du système. Et ça, ça a été fait avec un travail ici, vous voyez, publié en 2016, où jusqu'à présent, les conditions de greffage des molécules sur le nanotube étaient assez drastiques. Hein. C'est des bases fortes dans des solvants organiques comme le DMF, etc. Ça conduisait à désactiver le complexe, à démétaller le complexe, etc. Donc là, la stratégie, vous voyez, c'est pas très compliqué, mais c'est de se dire, si on greffait le ligand d'abord, vous voyez, la diphosphine, là, et ensuite, on métalle. Voilà. Eh bien, ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, et j'ai déjà évoqué ça en début de mon exposé, c'est l'importance du support. Et là, le choix qui a été fait dans cet article, donc c'est un travail aussi du laboratoire de Vincent, c'est de prendre un support qui est mieux nanostructuré, donc avec des plus grandes surfaces spécifiques, plus perméable à l'hydrogène, et qui permet un meilleur transport de l'électrolyte. Vous voyez, tout ça, il faut gérer. Mais là, on commence à devenir... Vous voyez, la démarche, c'est qu'on a trouvé un catalyseur très tôt, et puis après, ça devient de la technologie, de la technique, mais néanmoins, c'est hyper important. Et si on prend des microfibres de carbone maintenant, qu'on les mélange avec les nanotubes fonctionnalisés et qu'on le dépose sur le GDL, hein, comme vous pouvez le voir ici, avant, après, vous voyez, on gagne un facteur 20, ce qui est énorme, hein, parce que ce n'est pas tout à fait proportionnel, mais ça veut dire que vous allez gagner 20 en courant. Vous gagnez un facteur 20 sur la densité surfacique. Et je vais terminer là, c'est ma dernière. Et dans cet article, si vous voulez, à nouveau, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve que ce matériau dont je vous ai parlé, c'est-à-dire avec métallation en deuxième temps et microfibre de carbone, on arrive à un matériau, vous voyez, qui a, en termes de surtension, est exactement comme le platine, mais ça, c'était déjà le cas avant. Mais vous vous souvenez qu'en termes de courant, il y avait un facteur 100, et maintenant, c'est à peu près pareil. Donc, aujourd'hui, on a atteint, avec ces matériaux-là, moléculaires, greffés sur des nanotubes de carbone, des performances qui sont celles du platine et qui se traduisent, si vous voulez, dans une pile à combustible, pile à hydrogène, dans des conditions où il faut pousser un petit peu la température, que ce soit pour l'oxydation de l'eau ou pour la réduction des protons, voyez que le catalyseur à base de nickel moléculaire, l'électrode moléculaire, voilà, vous avez des courants ici 16,8, platine 26,6, à 300 millivolts 40, 60, et pour la réduction des protons 38, 32. Donc on est maintenant vraiment avec un matériau moléculaire qui est compétitif. C'est l'affaire de Vincent maintenant de voir si, et du CEA, puisque tout ça ce sont des brevets CEA, peuvent aller plus loin à travers vraiment la. Le développement industriel de ces matériaux. Mais voilà, après avoir donc montré un ensemble de stratégies pour fixer des molécules sur des surfaces, je voulais vous parler de cette histoire, puisque c'est effectivement une histoire qui illustre bien qu'on peut, en effet, contrairement par ailleurs à d'autres qui peuvent penser qu'il n'y a que la catalyse hétérogène qui est puissante, on peut en effet produire des catalyseurs moléculaires, si on les hétérogénéise correctement, qui peuvent rivaliser avec les tout meilleurs catalyseurs métalliques. Voilà, je termine là-dessus. Je vous remercie. On va continuer notamment avec l'intervention de Marc, Robert. Peut-être, vous pouvez faire le... S'il vous plaît, installer là le. Oui. Peut-être Marc, tu commences à t'installer. Je n'ai pas parlé de. Ici, vous avez vu, j'ai parlé d'oxydation de l'eau, j'ai parlé de réduction des protons en hydrogène. Donc là, je crois qu'on va entendre parler de CO2. Donc, pendant que ça s'installe, c'est déjà ça. Si vous avez une question pressante, vous la posez, sinon on discutera à la fin. Pas de questions angoissantes ou non. Bon. Voilà. Donc on continue. Donc on va voir. Merci Marc. Donc comme je l'ai dit, les dernières réalisations de Marc Robert dans le domaine de la catalyse de réduction du CO2 sont tout à fait impressionnantes et reconnues donc. Et donc je suis très heureux d'avoir ici aujourd'hui pour nous illustrer certains des aspects que sans doute que j'ai évoqués. Merci.